Grand Angle sur Radio Orient.
C'est le grand angle de ce jour, la réunion exceptionnelle ce lundi soir entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens, réunion sur la guerre en Ukraine. Notre invité, Frédéric Petit, député Modem de la 7e circonscription des Français établis hors de France, membre de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et fin connaisseur du dossier ukrainien. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour.
Alors des rencontres de haut niveau entre dirigeants dans un conflit aussi lourd d'implications comme cela s'est passé, peuvent-elles à elles seules résoudre un conflit, sachant que les motivations de Vladimir Poutine n'ont pas changé?
Non, je pense pas trop. Je pense que c'est une chorégraphie qui va couler pchemou, comme on dit chez nous, c'est-à-dire vers le mieux, mais je pense pas que ce soit des outils très performant immédiatement. Je voudrais rappeler deux choses. D'abord, Poutine n'est pas seul. Hein. C'est quand même, il faut toujours rappeler, c'est le Kremlin. C'est pas l'ensemble de la société russe ou de la Fédération de Russie, puisqu'il n'y a pas que des Russes. Mais c'est le Kremlin. C'est quand même une organisation très forte derrière lui. Hein. C'est pas un autocrate. C'est un dictateur, mais pas un autocrate. C'est un peu différent. Et la deuxième chose, il y a quand même quelque chose qui a été préparé ou sur lequel j'insiste beaucoup avant la réunion du 15 août. Donc la réunion à Anchorage, je trouve que Zelensky a fait quelque chose qui était assez brillant, comme il l'a fait deux ou trois fois, c'est-à-dire qu'il a ramené le droit sur la table et il a pris à contre-pied une narration que Poutine nous envoyait, comme il envoie ses bombes d'information sur l'Ouest, comme il envoie les bombes physiques en Ukraine. Zelensky a dit « Écoutez, moi, je n'ai pas le droit de céder des territoires ». Il l'a dit comme ça. Il l'a exprimé comme ça. Et ça, c'est très fort, parce que Poutine n'arrête pas de dire que Zelensky ne respecte pas sa constitution. Bon, Poutine a changé sa constitution, lui, sa constitution, c'est le dernier de ses soucis. Et Zelensky dit tout simplement, écoutez, moi, je respecte le droit international, donc ma constitution m'interdit de céder des territoires. Donc, je veux bien en discuter, mais il faudra quand même qu'on prenne ce point-là en compte. Et donc, il a ramené du droit, il a ramené l'Union européenne, donc discrètement, sans faire de foin. On est à la table des négociations, on l'a été hier soir encore, et on y est pour ce qu'on est. C'est-à-dire, nous, c'est du droit. Nous, on construit du droit. On ne fait pas des deals, on regarde pas qui c'est le plus fort, on regarde pas qui tape le plus sur les civils. Nous, on fait du droit international. Et on sait très bien que le droit international n'est pas complet, que c'est une construction patiente, mais on revient pas en arrière et on avance dans le droit international. Et ça, cette petite phrase de Zelensky qui a été très peu mentionnée, je l'ai trouvée extrêmement habile parce qu'elle coince Poutine. Voilà. J'ai l'impression, si vous voulez, pour répondre à votre question directement, j'ai quand même l'impression que les sbires du Kremlin sont un peu coincés aujourd'hui parce que ils sont quand même en contradiction. Enfin, bombarder des civils, tuer des civils en même temps que les deux grandes réunions pour la paix, ça fait un peu désordre, quoi.
Et comme vous dites, coincer Poutine, qu'est-ce que cela peut engendrer? Est-ce qu'il est possible que cela entraîne des conséquences?
Oui, mais ça sera des conséquences qui viendront d'ailleurs. Je pense que la Fédération de Russie est quand même fatiguée. Hein. Ils ne peuvent plus payer les primes des soldats. Là, ils sont obligés de passer dans les budgets régionaux. Ça va commencer quand même à coincer un peu aux entournures. Je vous rappelle qu'il y a un grand équilibre en Russie dont on ne parle jamais, en Fédération de Russie, j'insiste. C'est que démographiquement, les Slaves sont en catastrophe démographique hein, en Fédération de Russie. Hein. En Fédération de Russie, dans 20 ans, les Slaves sont extrêmement minoritaires. Les Slaves, c'est Moscou-Saint-Pétersbourg. Et donc ça, commencer à les taper dans les budgets régionaux, même si c'est pas des élus, même si c'est des gens nommés, ça va commencer à coincer dans les rouages. Quoi. On a bien vu que le Daghestan était fragile. Hein. Il y a eu une petite révolte au Daghestan au moment de Gaza il y a un an. Là, c'est un général du Daghestan qui vient de se faire tuer. Je suis pas sûr que ça soit pas cette résistance intérieure qui est peu visible aujourd'hui, mais qui finissent par coincer Poutine. Il paraît, là, il y a un premier sondage, donc on a des sondages dans la Fédération de Russie avec toutes les milliers de pincettes qu'il faut prendre. Mais pour la première fois, on a dans un résultat, je ne sais plus lequel, hein, je ne vous le citerai pas de tête, mais plus de Russes qui sont pour les négociations de paix que de Russes qui sont contre. Voilà, de citoyens de la Fédération de Russie. Quoi. Voilà, donc c'est une chorégraphie diplomatique, on va dire, mais on a l'impression que, en particulier par cette force de cette petite phrase de Zelensky, c'est-à-dire qu'il a dit OK, mais on parle du droit international, en droit international, le Kremlin n'existe pas. Hein.
Et c'est pour ça qu'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, comme cela est envisagé, pourrait être d'une importance majeure.
Ça serait une victoire chorégraphique de Zelensky, puisque Poutine ne le reconnaît pas. Donc moi, j'y crois pas trop. Hein. J'y crois pas trop, parce que la presse russe ce matin dit, enfin le communiqué officiel du Kremlin et la presse russe disent oui, nous sommes d'accord sur une nouvelle réunion au sommet entre l'Ukraine et les Russies, mais le premier point, c'est de savoir comment on fait les délégations. Donc eux ne parlent pas de Poutine-Zelensky. Si Poutine accepte de se trouver officiellement d'égal à égal en face de Zelensky, il recule. Puisqu'il a toujours dit que Zelensky non seulement est un nazi, machin, etc., mais en plus n'est pas le représentant légitime de la région de l'Ukraine. Voilà. Donc ça serait assez fort, mais moi j'y crois pas trop. Hein. Je pense qu'il y aura des échappatoires, ou alors que ça se fera pas la semaine prochaine. Quoi.
Comment vous avez perçu cette rencontre ce lundi soir, ce face-à-face entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, très différent bien entendu hein, du précédent, notamment dans le ton employé par Donald Trump?
Bien sûr, ah bah c'était un très grand progrès, on va dire comme ça pour être gentil, du côté de Donald Trump. D'abord, c'était pas un face-à-face. Hein, je vous rappelle qu'il y avait quand même toute la coalition des volontaires autour. Avec Zelensky, et c'était vraiment, ils étaient, je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais c'était table complète, quoi. Hein, et de l'autre côté aussi. Voilà, il y a une chose aussi sur la composition des tables et des rencontres.
Je pensais à la conférence de presse avec Zelensky et Donald Trump.
C'est un juste retour des choses, un juste retour de balancier par chorégraphique. Là, c'est clair que là, il y avait Zelensky, il y avait Donald Trump, et ils étaient en plein accord, et c'était une image forte, ça, la conférence de presse commune. Bien sûr, ça c'était clair, évidemment.
Est-ce que les Européens jouaient leur crédibilité ce lundi soir?
Je crois que le mot est un peu fort, oui, ils jouaient quelque chose, c'est sûr. Je crois que le mot est un peu fort parce que je suis, comme je dis souvent, je suis trop vieux pour être pessimiste, moi. Et je crois que l'Union Européenne, un peu comme je l'ai dit sur cette histoire de ramener le droit sur la table, l'Union Européenne, finalement, est assez lente. On est tous un peu frustrés, on dit « mais voilà, il n'y a qu'à Faucon ». Mais finalement, quand on regarde l'histoire avec un petit peu de recul, l'Union Européenne dit les choses importantes à chaque moment, quoi. Elle ramène les choses importantes, quoi. Le droit, les garanties de sécurité, hein, quand même, cette nuit, ce qui s'est passé, c'est que Trump a dit « oui, ok pour les garanties de sécurité, y compris des garanties qui sont des garanties qui imposent de l'armement militaire et de la présence militaire. Il l'a reconnu. Et ça, c'était quelque chose qui a Anchorage, qui était refusé catégoriquement par le Kremlin. Hein. Le Kremlin, les garanties de sécurité qu'ils ont proposées à Anchorage, c'était « on va changer notre loi ». Parler d'une garantie de sécurité si la Douma décide que... C'est ce qu'a proposé Poutine. Il a dit « on fera une loi à la Douma qui nous interdit d'attaquer l'Ukraine ». Oui, d'accord, bah, quand t'as envie d'attaquer l'Ukraine, tu feras une loi dans l'autre sens. Et puis, c'est pas une garantie de sécurité. Et là, Trump dit garantie de sécurité, ça veut dire matériel, ça veut dire troupes, ça veut dire garantie de sécurité. Quoi. C'est quelque chose de fort. Je ne sais plus comment a dit Mélanie. Mélanie a dit, je ne l'ai pas lu en français, donc elle dit à l'image de l'article 5. Elle a utilisé le mot article 5. Donc c'est un degré supplémentaire de ce qu'on appelle une garantie de sécurité quand même.
Une réunion comme celle de ce lundi soir souligne l'impossibilité pour l'administration américaine de s'entendre avec la Russie sans la participation de l'agressé, oui. En l'occurrence l'Ukraine. Et des Européens,
oui, oui,
aussi.
Oui, et les Européens. Moi, je crois qu'on est, très calmement, très solidement, discrètement peut-être, pas toujours dans le buzz, dans la chorégraphie que souhaiteraient les médias en continu, mais on est solidement à la table. La table a été prévue pour nous, on n'était pas dans un coin de la pièce, on était dans une table où la table faisait la longueur de la délégation européenne. Hein, voilà, pour dire les choses simplement, c'est une grande table à la hauteur de la longueur de la délégation européenne, et on y est revenu calmement, mais fermement, et surtout sur ce que nous, on a à dire au monde, quoi. C'est-à-dire pas, on n'est pas là pour dire la présence du Finlandais était assez exceptionnelle. La Finlande, c'est toute l'histoire de la résistance à l'impérialisme russe depuis des siècles. Victorieuse, voilà. Enfin, victorieuse, qui a négocié, qui a perdu un peu de territoire, etc., mais qui est toujours là. Voilà. Donc, il y a du symbole extrêmement fondateur pour l'Union européenne. Recherche de la paix, solide, garantie de sécurité, droit international, on ne cesse pas faire si on nous agresse. Voilà, il y a quelque chose qui est assez exemplaire de notre côté, et on l'a fait sans mouliner, sans rodomontade.
Et l'Union européenne avait besoin de montrer cela également.
Oui, et je trouve qu'elle l'a montré dans un style qui est aussi notre style. Le style français, le style de l'Union européenne, c'est-à-dire de pas chercher à faire des grands coups médiatiques, mais de répéter les choses inlassablement, en rappelant, puis un jour en disant, bah oui, ben voilà, nous on a rappelé, maintenant c'est sur la table. Voilà. Comment on va faire pour que, il y a quand même Trump qui dit, oui, évidemment, échange de territoire, ça ne peut se faire, il l'a dit cette nuit, ça ne pourra se faire que entre la Russie et l'Ukraine. Le droit international ne peut pas dire, toi tu donnes ça à lui et lui il prend ça à toi. Il n'a pas le droit. Et donc, on avance vers la reconnaissance du droit international, qui est quand même le grand malade aujourd'hui dans le monde. Donc, c'est bien.
Merci, Frédéric Petit.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes député MoDem de la 7e circonscription des Français établis hors de France, membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et que vous êtes un fin connaisseur du dossier ukrainien. Merci à vous et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.